Donc, comme on l'a lu, on est dans Éphésiens 5, donc on est à la suite, on a commencé au chapitre 1, là on est dans le chapitre 5. Et pour resituer un peu le contexte, la lettre aux Éphésiens peut être divisée en deux parties, les chapitres 1 à 3 d'une part et puis 4 à 5, 4 à 6 d'autre part. Dans le terme technique pour la première partie de 1 à 3, c'est souvent ce qu'on appelle l'orthodoxie et les 4 à 6, ce qu'on appelle l'orthopraxie. En gros, l'orthodoxie, c'est ce qu'on croit, la vérité qu'on professe. Et l'orthopraxie, c'est la manière de vivre dans la pratique, comment on vit ces vérités dans la pratique. Par exemple, ce qu'on voyait, une vérité, c'est que Dieu nous a pardonné tous nos péchés si nous avons mis notre foi en Jésus. Et c'est une vérité qu'on confesse, c'est notre orthodoxie, c'est le pilier de la foi. Mais la partie pratique, c'est que si Dieu nous a pardonné, m'a pardonné, moi aussi je dois pardonner les péchés des autres. Donc il y a toujours les vérités, mais qu'est-ce que ça implique ces vérités? Donc on a commencé à voir ça au chapitre 4, comme on voyait avec il y a 2 semaines. On disait Dieu nous a donné un même esprit, nous avons le même Seigneur, le même Dieu, nous allons être dans l'éternité ensemble. Je ne sais pas si ça vous réjouit. Et donc l'apôtre Paul dit, à cause de ça, on doit déjà chercher l'unité maintenant, avec l'humilité, la douceur, pour trouver cette unité. Ou encore la semaine passée, on voyait que Dieu nous a donné son Saint-Esprit qui nous éclaire pour les choses d'en haut. Le Saint-Esprit fait qu'on comprend la parole de Dieu, qu'on connaît Dieu. Et à cause de ça, l'apôtre Paul disait, nous ne pouvons pas vivre comme ceux qui n'ont pas cette lumière. Donc toujours l'orthodoxie, la vérité qu'on croit, mais il y a toujours une implication. On n'est pas juste là pour dire des vérités comme ça doit avoir un impact dans nos vies. Donc la vie chrétienne peut être résumée à deux choses, connaître la vérité et avoir des vies conformes à cette vérité. Et les deux sont possibles par l'Esprit de Dieu qui habite en nous et par la parole de Dieu. La parole, on nous révèle quelles sont ces vérités spirituelles et le Saint-Esprit nous éclaire et le Saint-Esprit nous donne la force de vivre selon ce que Dieu demande. Autrement, on ne pourrait pas. Donc, dans le passage aujourd'hui, Dieu nous rappelle à travers l'apôtre Paul qu'en tant qu'Église, nous sommes la lumière dans le monde et nous devons marcher comme tel. Ça peut paraître manquer de modestie, hein. On est la lumière du monde. Donc, on voit ça au verset 8 qu'on a lu. Aussi, si vous avez vos Bibles, regardez au verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et on est, enfin, dans la Bible, à plusieurs reprises, il y a souvent cette analogie avec la lumière. Il y a les fameuses paroles du Seigneur Jésus lui-même dans Matthieu 5, verset 14, 5, verset 14 à 15. Il dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Ou si vous vous êtes familier avec l'Apocalypse, quand l'apôtre Jean voit le Seigneur Jésus dans son corps glorieux, dans son corps tel qu'il est maintenant dans le ciel, il lui apparaît au milieu de 7 chandeliers d'or. Et à l'époque, il n'y avait pas l'électricité, hein, donc c'est les chandeliers qui éclairaient la maison. Les chandeliers, c'est des meubles qui portaient des bougies. Et à la fin, dans l'Apocalypse, on nous dit, les chandeliers, c'est les églises. Dans la lumière, c'est les églises. Après qu'on pense lumière, donc on voit l'analogie de la lumière, on pense souvent éclairer les autres. Et c'est vrai. Mais dans le contexte, on voit aussi que la lumière, c'est aussi pour le plaisir de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà trouvé dans une situation où les choses sont globalement difficiles à supporter et vous vous dites, ouf, heureusement qu'il y a ça. Je pense par exemple, si vous êtes prof, vous avez une salle de classe où vous tombez sur des élèves qui ont du mal à suivre, qui ne sont pas disciplinés, et vous vous dites, heureusement qu'il y a ces quelques élèves qui me donnent un peu de joie dans mon travail. Ou si vous êtes élève, on est déjà dimanche, vous dites, ah, demain c'est lundi, il faut retourner à l'école. Mais heureusement qu'on mange bien à la cantine. Mais heureusement que je vais voir mes potes, heureusement qu'il y a le cours de maths parce que j'aime les maths. Bien quand l'hiver arrive, je sais pas si ça vous arrive, je suis presque déprimé. Je me dis heureusement qu'il y aura les raclettes, on peut manger. Donc il y a souvent des moments comme ça, des trucs où c'est difficile, mais on s'est dit heureusement qu'il y aura ça. L'église c'est un peu comme ça pour Dieu. Quand Dieu regarde le monde, il voit tout ce péché, Dieu, ça irrite Dieu. Dieu déteste le péché, ce qu'on voit dans la Bible. Et cette lumière-là, c'est un peu comme des ouf de Dieu. Heureusement qu'il y a ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'histoire de Sodome et Gomorre. Dieu descend sur terre avec 2 anges. Il dit, leur péché est à l'extrême. Et il dit quoi à Abraham? Et si je trouve 10 justes, je détruis pas la ville. Alors à cause d'une petite église de 10 personnes, Dieu aurait dit, heureusement qu'ils sont là. Mais Dieu n'a pas trouvé cette église, donc il a décimé la ville de Sodome et Gomorrhe. Lumière, quand on dit que l'église est lumière, c'est aussi pour le plaisir de Dieu. C'est ce qu'on va voir dans notre texte. Donc d'abord, on va voir, il y aura trois parties. D'abord, on va voir l'église est lumière au milieu des ténèbres. Ce sera la première partie. Ensuite, on va voir que l'église est la lumière pour le plaisir de Dieu, comme ce ouf. Ensuite, enfin, on verra que la lumière de l'église vient de la force que donne le Saint-Esprit. Donc d'abord, l'église est lumière au milieu des ténèbres. Donc si vous avez vos Bibles, c'est dans les versets 3 à 9. Donc Dieu sait que nous sommes dans un monde entouré de péchés. Et si nous avons mis notre foi en Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Le Saint-Esprit nous fait vraiment aimer les choses de Dieu. Nous sommes vraiment quelqu'un de nouveau. Il y a une partie de nous qui n'est pas transformée. Il y a une partie de nous qui veut encore retourner vers le monde. C'est souvent ce que la Bible appelle la chair. Et tant que nous sommes dans ce monde, il y aura toujours une lutte entre la chair et l'esprit. C'est pour ça que ces commandements sont là. En gros, nous ne sommes, enfin, c'est comme la Bible, c'est pas une liste de courses, c'est pas une liste de choses à faire, à ne pas faire. Mais la Bible nous donne plutôt dans ce passage ce qui est censé être notre identité. Donc, si vous avez un combat, voici ce qui est censé être votre identité. Et l'apôtre Paul va commencer. Donc, il va citer trois choses que nous devons auxquelles nous devons renoncer en tant que lumière dans le monde. Voilà les choses auxquelles nous devons renoncer. Et puis il va nous donner les motivations dans cette première partie, dans les versets 3 à 9. La première chose, c'est l'immoralité sexuelle. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, tu as dit les choses pour me cibler, moi je cible personne, c'est juste dans les versets que vous avez lus. Donc au verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Que l'impudicité, que l'impureté ne soient pas même nommées parmi vous. L'impudicité, c'est la caractéristique de ce qui est contraire à la pudeur. Si vous regardez à différents endroits dans la Bible où on énonce les péchés que Dieu déteste, souvent l'immoralité sexuelle est là, dans le top 2, top 3 ou en première place. Alors, l'apôtre Paul dit peut-être ça parce que l'immoralité sexuelle était présente dans la société d'Éphèse. Et plusieurs chrétiens avaient ce style de vie avant que Dieu les sauve et les transforme. Mais l'apôtre Paul dit surtout ça parce que Dieu accorde une grande importance au mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. Et il a créé le sexe pour le mariage. Et toutes les pratiques sexuelles en dehors du mariage sont un affront à Dieu. C'est une rébellion contre Dieu. Et le mariage, bien sûr, a été créé par Dieu pour un homme et une femme. Dit que l'immoralité, l'impudicité, l'immoralité sexuelle ne sont même pas nommées parmi vous. Ainsi, il convient à des saints. Donc, être lumière, ça commence dans l'église. Ça commence à ce qui est présent dans l'église. La deuxième chose à laquelle l'apôtre Paul touche, c'est le rapport à l'argent. Donc, que l'impudicité, l'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais la recherche effrénée de l'argent peut souvent être le fruit de la convoitise. C'est qu'on en veut toujours plus, on veut comme les autres. Et ça montre un manque de satisfaction en Dieu. Donc, il parle de l'immoralité sexuelle, de la cupidité qui est la convoitise, le fait de vouloir toujours plus, de vouloir ce que les autres ont. Et la troisième chose à laquelle il touche, c'est les paroles. Dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Souvent, on va dire, mais tu vois pas mon cœur, tu vois pas ce que j'ai dans le cœur. Si on ne voit pas le cœur, souvent les paroles reflètent ce qu'il y a dans le cœur. C'est le Seigneur Jésus qui disait, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et en tant qu'Église qui sommes appelés à être lumière, nous ne pouvons pas avoir des paroles déshonnêtes. Donc, ce que l'Esprit a créé en nous, en faisant de nous de nouvelles créatures, nous donne d'avoir des paroles véridiques. Après, il dit qu'on n'entend pas de plaisanteries, chose contraire à la bienséance. Alors, je ne crois pas que ça veut dire. Ça ne veut pas dire dans l'absolu qu'on ne peut pas rigoler. Dieu nous a donné le rire. Quelque chose me dit que Dieu a de l'humour. Mais il y a des choses dont on ne doit pas rire. Et c'est ce qui est adressé ici. Plaisanterie, choses contraires à la bienséance. Je crois que c'est un ensemble. Je pense que ça parle par exemple des gros mots, des blagues en dessous de la ceinture, comme on dit souvent dans le langage. Et donc en tant que saint, ça ne peut pas exister dans l'église. Après, qu'on entend des paroles, après avoir dit ce qu'on ne doit pas entendre, il dit qu'on entend plutôt des actions de grâce. Pourquoi il dirait ça dans ce contexte? Je crois qu'ici l'apôtre Paul emploie le même schéma que dans Jacques 3, verset 11, dit « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?» Dans le contexte, l'apôtre Jacques montrait qu'en tant que chrétien, on ne peut pas avoir une bouche, notre bouche qui vient chanter les louanges de Dieu et en même temps qui maudit les hommes. Vous ne pouvez pas bénir Dieu et maudire les hommes. Je crois que l'apôtre Paul applique le même schéma ici. Nos bouches qui chantent les actions de grâce ne peuvent pas en même temps dire des choses profanes ou obscènes. Donc après avoir cité ces quelques exemples qui font de nous la lumière, l'apôtre Paul nous donne deux motivations. La première, ce que j'appelle une motivation éternelle, au verset 5. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. J'ai regardé, les mots héritage, héritier, co-héritier reviennent souvent dans la lettre aux Éphésiens. Notre motivation ultime pour être lumière, pour s'abstenir de toute immoralité, pour avoir des paroles saines, c'est parce que Dieu nous promet un héritage dans le royaume de Dieu. Après ça, la vie chrétienne, c'est une vie dans l'attente du royaume des cieux. Dieu nous a sauvés, le Seigneur Jésus nous a sauvés pour la vie éternelle, pour nous avoir avec lui dans la vie éternelle. C'est ça la première chose. Je pense que c'est important, et l'apôtre Paul l'a rappelé à plusieurs reprises, c'est important que nous soyons conscients, si nous sommes enfants de Dieu, qu'un jour nous serons dans le royaume des cieux, avec Dieu lui-même. Les jeunes, je ne sais pas si vous vous souvenez, je parle à ceux qui sont au collège, lycée, quand vous vous disiez « quand je serai en troisième » ou bien « quand je serai au lycée » et du jour au lendemain, c'est arrivé. Ou bien nous, enfin, je me souviens, j'avais l'impression que c'était interminable la vie étudiante. Je me disais « quand j'aurai un travail, quand je pourrai avoir un salaire » et puis du jour au lendemain, c'est arrivé. Le royaume des cieux va arriver comme ça. On en parle toujours et souvent les gens moquent. Mais où est Jésus qui a dit qu'il revient? Un jour il va revenir. Il y a plusieurs moqueurs qui l'ont déjà retrouvé. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait. Donc la motivation pour la lumière, il dit, nous avons un héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ceux qui marchent dans l'impureté, la cupidité, ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. C'est contraire à la nature de Dieu. Ils ne seront pas admis dans la présence de Dieu. Merci, Aden. Et puis au verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc après, la motivation positive qui nous montre la promesse du royaume des cieux pour ceux qui vivent dans la lumière, il nous montre la menace pour ceux qui vivent dans les ténèbres. La Bible dit pour que personne ne vous séduise. Pourquoi il a besoin de dire ça? Je crois que parfois, quelques personnes qui veulent enseigner la parole de Dieu vont se trouver dans une situation où eux-mêmes n'ont pas une vie conforme à ce que Dieu demande. Et parfois, ils vont dire ah, est-ce que c'est un peu trop sévère? Est-ce que c'est si grave si un chrétien aime Dieu et aime l'argent? Est-ce que c'est si grave si un chrétien vit dans l'immoralité sexuelle? Ou bien alors, souvent des personnes vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font de mal si deux personnes vivent en concubinage sans être mariées? Ils font de mal à personne. Ou bien deux hommes qui vivent ensemble, qui vivent comme un couple, ils font de mal à personne, ou deux femmes. Et l'apôtre Paul nous dit, oui, c'est grave, parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. La Bible nous décrit l'enfer, la colère de Dieu comme quelque chose de terrible, ce qu'on appelle l'enfer. Et le péché, c'est comme toute autre forme de péché. C'est quand les hommes savent qu'il y a un Dieu qui a tout créé. La Bible nous dit que les hommes savent qu'il y a un Dieu qui a tout créé. Il a mis sa loi dans leur cœur. Et donc les hommes qui vivent contrairement à la loi de Dieu disent, je sais ce que tu demandes Dieu, et je vais faire comme j'en ai envie. C'est une rébellion contre Dieu. La Bible montre que Dieu ne désire pas que les rebelles meurent. Il veut qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Mais ceux qui ne vont pas se repentir vont subir sa colère. Et l'apôtre Paul nous rappelle ça ici, comme pour nous motiver que maintenant que nous avons été sauvés par grâce, on n'a pas été sauvés parce qu'on fait le bien. Dieu nous a sauvés malgré tous nos péchés. Il a pardonné tous nos péchés. On ne peut pas continuer à faire ce qui provoque sa colère. C'est comme si on te disait, je crois que celui qui est en Christ, Dieu n'est jamais en colère contre lui. Celui qui est en Christ, Dieu n'est jamais en colère contre lui. Il a déversé toute la colère de tous les péchés, passés, présents, à venir, a été déversé sur Jésus. C'est la même chose pour vous si vous avez mis votre foi en Jésus. Mais maintenant, souvent quand on dit ça, on dit, oui, mais si vous dites ça, si on est sauvé par la foi seule, est-ce que les gens ne vont pas vivre dans le désordre? Je dis, c'est comme si on te disait, ta mère ne sera jamais en colère contre toi. Est-ce que tu vas dire, ok, je vais profiter pour bien la tristesser, pour bien la mettre en colère? Non. Dis, maintenant que vous avez été sauvé par grâce, que Dieu n'est pas en colère contre vous, vous ne pouvez pas faire ce qui attire la colère de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre comme les gens qui vivent dans la cupidité, dans l'immoralité. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. Dieu n'est pas indifférent au péché. Dans le sermon sur la montagne, on lisait Matthieu récemment avec les jeunes. J'ai encore été frappé par une parole de Jésus qui disait, celui qui dit à son frère insensé. Est-ce que vous savez comment on est rapide de dire, ah, qu'est-ce qu'il est bête ou bien... Mais le Seigneur disait, celui qui dit insensé mérite l'enfer. Dieu ne rigole pas avec le péché. En tant qu'enfant de Dieu, on veut s'éloigner juste parce que ça attire la colère de notre Père. N'ayez donc aucune part avec lui. Verset 7. Alors, je pense pas que ça veut dire. La Bible ne nous dit jamais de ne pas fréquenter les non-chrétiens, ok? Dans 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul disait, si vous voulez ne plus fréquenter les non-chrétiens, il faudrait sortir du monde. C'est impossible de vivre dans ce monde sans fréquenter les non-chrétiens. Au contraire, on veut être la lumière du Seigneur auprès d'eux. Mais on ne peut pas avoir la même part. On ne peut pas prendre part à leur activité qui est contraire à la loi de Dieu. Je me souviens, j'avais un collègue, il y avait un after work, on est allé, bon, les jeunes, il ne faut pas faire ça, tant que vous n'êtes pas majeur, il ne faut pas prendre d'alcool. Donc on est allé après l'after work, on a pris, bon, j'ai pris 2 bières, je crois, et je me suis dit, mince, ça continue là, et il était super tard, je me suis dit, bon, les amis, moi je rentre. Et après, ils sont restés toute la soirée, ils sont jusqu'au matin, ils se sont bourrés. Et le lendemain, ils m'ont dit, mais pourquoi tu bois si tu te bourres pas? Je dis, mais parce qu'il faut rentrer chez moi. Donc on peut côtoyer, on doit côtoyer les non-chrétiens, mais on ne peut pas marcher dans une manière qui est contraire à ce que je demande. Et puis la motivation actuelle, après nous avoir donné la motivation éternelle, c'est que nous sommes appelés à être lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Je vois l'église un peu comme un peu l'image de la flamme olympique. On commence d'abord dans l'église. On commence d'abord à vivre la piété dans l'église. Et après, on rallume cette lumière que Dieu nous a donnée ici entre nous. Après, on va être des flambeaux dans le monde. Et chacun a sa responsabilité d'allumer son flambeau pour aller éclairer dans son environnement, peut-être au travail, peut-être dans la famille, etc. Et puis en deuxième partie, on voit que la lumière, c'est pour le plaisir de Dieu. Au verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Dans l'usage du monde, dans l'emploi de nos ressources, dans l'emploi de notre temps, c'est une bonne chose d'examiner ce qui est bon au Seigneur. Il y a une phrase que j'entends souvent, surtout chez les enfants, et que j'aime pas trop, c'est... On dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce que j'avais envie. Et je pense que des fois, nous les adultes, on le fait, même si on le dit pas. Et ce que l'apôtre Paul nous appelle à faire ici. Bien sûr qu'on peut faire ce qui nous fait plaisir, mais c'est dans le contexte de ce qui est agréable au Seigneur. Dans nos voies, dans notre façon de nous conduire, on doit examiner nos voies pour voir ce qui est agréable à Dieu. Puis au verset 11 et 12, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Non seulement on doit regarder, examiner nos voies pour regarder ce qui est agréable au Seigneur, mais il faut aussi regarder, identifier ce qui est désagréable au Seigneur, le pointer, le condamner. Je parlais de livres tout à l'heure. Je pense que condamner ce qui est désagréable au Seigneur, ça ne veut pas dire aller condamner les gens. Okay. Il me dit comment juge, on sera jugé. Il ne faut pas aller juger et condamner les gens. Mais il faut pointer du doigt. L'ivresse est incompatible avec la vie d'un chrétien. L'immoralité sexuelle est incompatible avec la vie d'un chrétien. L'homosexualité est incompatible avec la vie de Dieu. Il faut dire, il faut être clair, ferme sur les choses. Et ne pas prendre aux œuvres des ténèbres. Proverbe 15. Prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais encore une fois, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Une autre exhortation que l'apôtre Paul nous donne, c'est être alerte pour racheter le temps. Dans la Bible en anglais, c'est redeem the time, je parle sous le contrôle du Seigneur. Souvent dans la Bible, quand on dit racheter, le verbe racheter est associé au mot rédemption. Et ça renvoie souvent au fait de faire une bonne utilisation, une utilisation glorieuse de quelque chose qui pourrait être utilisé à des fins inutiles. Par exemple, si on voit un bout de, il peut avoir un bout de bois qui traîne dans la rue. Si on le laisse là, ça va pourrir à cause de la pluie, à cause des termites. Mais peut-être quelqu'un qui sait utiliser le bois, tiens, il fabrique un beau meuble. Il fabrique une belle guitare, je ne sais pas. On peut dire quelque part, il a racheté ce bout de bois. Quelque chose qui allait être gaspillé, il l'utilise pour une bonne fin. C'est ça le concept de racheter, souvent dans la vie. L'apôtre Paul nous appelle à faire ça du temps. On peut gaspiller notre temps, ou alors on peut le racheter en examinant quelle est la volonté du Seigneur. On peut se dire quelle est la volonté du Seigneur en ce moment. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire en ce moment, dans mon église, dans ma famille, dans mon travail, tout ça, ce sont les choses de Dieu. Examiner qu'est-ce qui est agréable à Dieu, faire sa volonté et utiliser notre temps pour s'améliorer. Si Dieu t'appelle en ce moment à servir dans l'église en faisant les slides, tu es alerte, tu t'améliores. Si Dieu t'appelle à... Enfin, moi, j'aime beaucoup les moments d'agapé. Je trouve que c'est un service. Moi, mon langage de l'amour, c'est la nourriture, donc je me sens aimé pendant les moments d'agapé. Et peut-être c'est comme ça que Dieu nous appelle à servir l'église. On le fait en faisant ça, on rachète le temps. Je trouve que c'est du temps pour bénir l'église. Et donc c'est un service à Dieu. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Paul nous dit on ne peut pas juste vivre comme ça et voir les choses arriver. Non, il faut planer, il faut regarder, examiner qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Qu'est-ce que je fais en ce moment qui n'est pas agréable à Dieu et ajuster. Je pense qu'on a le droit au loisir, mais tous les loisirs sont bons tant qu'ils viennent dans le contexte de ce qui est agréable à Dieu. Donc tout ça, c'est un appel à rester ferme, garder notre identité de lumière dans le monde et de lumière pour le plaisir de Dieu. Mais comment faire? Comment faire ça? C'est comme dans toute chose. Il y a trois choses dans qui nécessitent toujours l'énergie. On dit il y a la chaleur, le mouvement et la lumière. Il ne peut pas avoir de chaleur sans une énergie, c'est une source d'énergie. Il ne peut pas avoir de mouvement sans une source d'énergie. Essayez de démarrer quand vous êtes en panne sèche, ça ne va pas marcher. Il ne peut pas avoir de lumière, c'est une source d'énergie. Et d'où vient l'énergie spirituelle qui fait que nous pouvons être des lumières spirituelles, fait que nous pouvons vivre notre identité en nous éloignant de la cupidité? Cette énergie vient du Saint-Esprit. Donc la première chose que l'apôtre Paul nous appelle à faire sur le comment être une lumière, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Peut-être à l'église d'Éphèse, il y avait des personnes qui souffraient du vice, de l'alcoolisme, il y avait toutes sortes de péchés, et puis ils avaient été sauvés. Et peut-être qu'ils peuvent être tentés, souvent quand tu as eu une familiarité avec certains péchés, même si le Seigneur te sauve et te donne le Saint-Esprit, souvent tu peux encore avoir ta chair qui t'attire. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, comme, peut-être comme avant pour certains, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Quelqu'un qui est rempli de vin perd le contrôle. Il a perdu tout contrôle de lui-même. Et par opposition, quelqu'un qui est rempli de l'esprit est lucide. Il a le contrôle pour faire la volonté de Dieu. Après, comment être rempli du Saint-Esprit? L'apôtre Paul, il a vu le Seigneur Jésus, il a fait des miracles. Tu peux penser qu'être rempli du Saint-Esprit, bah, il faut quelque chose de surnaturel. Et au verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je m'attendais à quelque chose de puissant, il dit quoi? Chanter. Parce que pourquoi c'est la marque de quelqu'un qui peut être rempli du Saint-Esprit? Parce que si notre chant vient d'un cœur sincère, souvent les louanges qu'on adresse au Seigneur, c'est à cause de quelque chose qu'il a fait, de des vérités. Donc ça suppose qu'on est plongé dans ces vérités-là et qu'on célèbre le Seigneur avec la joie du Saint-Esprit. Et avancez, dit, entretenez-vous par des psaumes. Quand vous faites du sport, on mange bien pour entretenir notre corps. Mais lire les psaumes, lire la parole de Dieu, nous entretient la flamme du Saint-Esprit. Prenez du temps pour lire la parole de Dieu, pour contempler la parole de Dieu, que son esprit vous aide à voir la gloire, la beauté de ce que Dieu a fait pour nous. Et le Saint-Esprit va nous pousser à méditer, à avoir cette joie. Puis au verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, et peut-être que vous traversez des situations difficiles, je ne connais pas la situation de tout le monde, mais il y a toujours une possibilité de rendre grâce à Dieu continuellement. Déjà, si vous êtes en Christ, vous êtes héritier du royaume des cieux. Et toute l'éternité, on va continuer de chanter. On ne sera jamais assez reconnaissant. Et puis sur cette terre aussi, on a des grâces de Dieu. La vie, la santé, pour ceux qui l'ont, on a toujours des occasions de rendre grâce à Dieu. On doit prier en appréciant Dieu et ce qu'il a fait pour nous. J'aime bien le chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. » Plus on apprécie Dieu, plus ça grandit en nous, plus notre amour, notre attachement pour Dieu grandit. Et puis enfin, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Comme je disais un peu, le foyer qui permet de nourrir notre vie spirituelle, c'est l'Église. C'est dans l'Église qu'on vient s'encourager. Et pour ça, on a besoin des uns des autres. Je suis convaincu que chaque membre de l'Église, comme on voyait, on est membres les uns des autres. Je crois que quelqu'un disait ça aussi dans sa prière. Chacun de nous a quelque chose pour quelqu'un d'autre. On ne peut pas, on n'est pas autonome, on a besoin d'aide. Et c'est vrai que souvent le mot soumettre fait un peu peur. Et surtout, c'est connoté, on va dire. Mais soumettre, c'est souvent donner à quelqu'un, c'est accepter la position d'autorité de quelqu'un d'autre. Et dans l'Église, quelqu'un peut avoir une légitimité dans certains domaines. Vous êtes légitime des fois pour me dire ce qui, pour me faire des remarques. Et je pense que le fait d'avoir les uns les autres, souvent ça peut être un miroir. Quelqu'un peut te dire, hey, frère, je pense que là t'as mal parlé. Hey, frère, là je pense que t'as pas été conforme à la vérité. On a besoin de ça. On a besoin de ça pour grandir en tant que. Donc pour finir, en tant qu'Église, c'est-à-dire en tant que groupe de personnes choisies par Dieu avant la création du monde, pardonnés de tous nos péchés, destinés au royaume des cieux. Dieu l'a fait pour que nous soyons lumière dans le monde. La Bible dit que Dieu nous a sauvés et nous réserve un héritage dans les cieux. Mais la Bible dit aussi par endroit que nous sommes l'héritage de Dieu, nous appartenons à Dieu. En tant que peuple de Dieu, nous avons deux responsabilités. D'abord, être agréable, examiner nos vices, s'assurer que nous sommes agréables à Dieu. C'est notre premier devoir. Ensuite, le représenter dans un monde de ténèbres. Et comment répondre à cet appel? Nous répondons à cet appel en s'appuyant encore sur Dieu lui-même et en comptant sur son Saint-Esprit. Nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu régner en nous et en nous rappelant les œuvres du Seigneur régulièrement. Ce Saint-Esprit va nous aider à être en réalité ce que nous sommes, les enfants de Dieu. tes lumières dans moi. Je prie pour nous. Notre Dieu, notre Père, Père, merci pour la grâce, le privilège de ce que tu, toi le grand Dieu, ce que tu as, tu t'es attardé sur chacun de nous, que tu as sauvé. Père, pour ça, tu as donné ton propre fils, parce que tu voulais nous avoir avec toi dans le paradis pour l'éternité. Père, je te supplie que tu ouvres mes yeux, afin que cette attente soit ferme, afin que cette attente, que le royaume des cieux soit réel, parce qu'il est vraiment réel. Et tu vois notre faiblesse, des fois nous sommes emportés par le monde, et nous croyons que le Seigneur tarde à venir, et donc il ne va peut-être jamais venir. Père, aide-nous à voir que c'est un mensonge, aide-nous à être conscients de l'imminence du retour de Christ. Père, aide-nous à être des lumières dans le monde, à être ton plaisir, à trouver notre plaisir en toi et à avoir aussi des vies qui te soient agréables. Et Père, aussi à être des témoignages par la vie que tu as créée en nous par ton Saint-Esprit. Aide-nous à nous réjouir, à être reconnaissants, aide-nous à nous édifier les uns les autres par ta parole. Père, s'il te plaît, bénis-nous, bénis ton Église. On te prie au nom de Jésus. Amen.